quelqu'un dire, c'est bien de se poser cette question de quels sont nos rêves, mais la meilleure question serait de se poser cette question, quels sont les rêves de Dieu pour moi? Et cette personne disait, en plus de cela, rêvons les rêves de Dieu. Et quand on lit la Bible, on se rend compte très vite que les rêves de Dieu sont meilleurs que nos rêves. Largement meilleurs que nos rêves. Et j'avais parlé dimanche dernier de trois rêves de Dieu pour nous, tous en envoyant Jésus-Christ, nous délivrer de la condamnation du péché, deuxièmement, nous délivrer de la puissance du péché, et enfin, nous rendre capables de vivre dans la sainteté. J'avais pris un temps pour dire à quel point cela était vrai. Quand on parle de sainteté, on a l'impression qu'il faut aller sur une haute montagne, vous voyez, et nous isoler du monde entier. Mais en fait, la sainteté, on pourrait résumer, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Et c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. En fait, tout se résume à un amour parfait pour Dieu et pour les autres. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Imaginez un peu ce monde où l'amour était total. Pas de souffrance, personne ne tricherait. Enfin, on pourrait faire toute une liste de choses, mais c'est extraordinaire de vivre dans un monde où l'amour est total, où il n'y a plus du tout de péché. Et bien c'est cela. Et Dieu a eu ce rêve à cœur, puisque quand il nous a créés, c'était dans ce sens, et c'était dans cette direction qu'il allait. Tout était parfait, tout était bon, mais à cause du péché. Il a fallu que Dieu rétablisse cela. Et voilà pourquoi Christ est venu pour rétablir toutes choses. Et nous allons voir encore d'autres détails maintenant. Mais j'aimerais parler maintenant d'un dernier rêve de Dieu. Toujours dans le même texte que nous avons lu dimanche dernier, donc on va reprendre Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Nous avons entendu plusieurs lectures ce matin et on va se concentrer sur Emmanuel, Dieu avec nous. Déjà, réponse à ce que je viens de dire, qui est le rêve de Dieu pour nous. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Je vais lire ces quelques versets. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre les fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce sujet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Étonnant ce texte. Alors je vous rassure, je n'ai pas pris ce texte parce que je m'appelle Emmanuel. Mais voilà. Un beau texte qui nous rappelle cette vérité profonde. Dieu avec nous. Marie tombe enceinte, miraculeusement par le Saint-Esprit. Joseph, qui va devenir son mari, ne comprend rien. Comment est-ce possible que Marie soit enceinte? Elle m'a trompé. Joseph décide donc de rompre ses fiançailles. Il veut le faire discrètement, sans le dire à personne, pour protéger la réputation de Marie. C'est impressionnant. Dans son temps de réflexion, un ange lui apparaît, et là en rêve, et lui dit que Marie est enceinte par l'action du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle porte est le Messie promis de Dieu. Ce Messie qui devait venir de la lignée de David et qui délivrera son peuple de ses péchés, il faudra l'appeler Jésus. L'ange finit en disant que c'est l'accomplissement de la prophétie que Ésaïe avait donnée il y a 700
disons plutôt, voici la jeune fille sera enceinte, vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Joseph, ce que Dieu est en train de vivre là, est extraordinaire. Ta femme, celle qui va devenir ta femme, est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle porte en son sein le Messie promis. Et de la descendance de David, le prophète Isaïe, que tu as lu pendant des années, tu connais plein de textes par cœur, confirme que c'est le plan de Dieu qui se réalise aujourd'hui sous tes yeux. Waouh, quelle bonne nouvelle pour Joseph et Marie. Les paroles de l'ange vont rassurer Joseph. Il ne va plus rompre avec Marie. Ils vont ensuite suivre ce que Dieu va leur montrer et prendre leur responsabilité de parents. Vous savez, en 734 avant Jésus-Christ, le roi de Juda, Akaz, est menacé par une alliance entre le royaume du nord d'Israël et de la Syrie. Il est effrayé à la perspective que son règne prenne subitement fin et qu'une invasion fasse beaucoup de morts et de prisonniers. Toutefois, comme l'affirme Isaïe, ce ne sera pas la fin du royaume de Juda, et Emmanuel sera un signe de la délivrance. Ce signe serait le gage, en fait, de la fidélité de Dieu à l'alliance faite avec David, de la délivrance du peuple, de ses ennemis, et de la présence vivante de l'Éternel au milieu d'Israël, de son peuple. Tout ceci est encore bien mieux accompli par le nouveau signe accordé à Joseph. Nous parlons maintenant. Car Dieu sera désormais présent avec les hommes, non plus dans le temple, mais dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui est infiniment plus grand, n'est-ce pas? L'un des plus grands rêves de Dieu pour nous, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu. Le fort désir de Dieu est de vivre parmi nous, écoutez bien, et en nous, et en nous. Emmanuel veut dire donc Dieu avec nous, et j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour voir trois points de signification du nom d'Emmanuel, afin que nous puissions mieux saisir le rêve de Dieu pour nous. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, on pourrait dire ceci. Jésus est Dieu. Il est tellement important de ne pas passer à côté de cette vérité. Jésus-Christ est Dieu lui-même. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouveriez normal qu'une personne vous dise ceci? Oh, comme je suis heureux de venir d'avoir un fils. Il s'appelle Jean. Il nous fait tellement plaisir avec ses beaux sourires. Nous sommes tellement heureux de notre petit Antoine. Est-ce que vous trouvez normal ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui se passe là? Comment? Il y a deux prénoms là. Bizarre, non? Que cette personne dise que son fils s'appelle Jean et finisse par un autre nom, Antoine. Alors, en entendant cela, il y a deux possibilités. Ou cette personne nous a donné le prénom et le deuxième prénom, ce qui est très rare, n'est-ce pas? Ou elle a un problème. Elle s'en mêle les pinceaux, peut-être avec les autres prénoms qu'elle a en tête. C'est un peu ce que fait l'ange, en fait. Vous ne trouvez pas? Il dit à Joseph que l'enfant que porte Marie devra s'appeler Jésus. Et quelques secondes après, il donne la prophétie d'Isaïe, disant qu'il s'appellera Emmanuel. Et donc, dans un texte que nous avons lu tout à l'heure, j'ai entendu encore d'autres mots, l'ange disait, ou c'est l'ange, ou en tout cas dans le texte, on voit que c'est du fils du Très-Haut, et fils de Dieu, et puis aussi fils de David. Et donc, fils de garçon comme la personne dont je parlais juste avant. Le pire dans tout cela, c'est que le prophète Ésaïe a l'air d'avoir le même problème. Il dit qu'un enfant va naître, il s'appelle Emmanuel. On retrouve ce nom dans le chapitre 7, dans le chapitre 8, et dans le chapitre 9, il y a un petit souci. Regardez le verset 5. Car pour nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il s'appelle, il sera appelé, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Ils s'en mêlent tous les pinceaux. Ils donnent un prénom, puis ils en donnent un autre, et puis il y a plein d'autres. Voilà. Est-ce normal? Oui. Oui. Il faut comprendre qu'à l'époque d'Ésaïe, comme à l'époque de Joseph, les gens avaient l'habitude de donner un nom avec une ou plusieurs significations. Dieu a fait ainsi pour le Messie qu'il allait envoyer pour délivrer le monde de ses péchés. Dieu voulait donner plusieurs prénoms qui permettent de mieux comprendre, saisir qui est le Messie qui doit venir et quelle est sa mission, pourquoi il vient. Le Messie est à la fois appelé donc Jésus, Emmanuel, fils de Dieu, fils du Très-Haut, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Nous retrouvons plusieurs autres prénoms dans le Nouveau Testament, comme aussi le fils de l'homme, que je n'ai pas mentionné, bien d'autres encore. Jésus sera le prénom que le Messie portera tout au long de sa vie. Jésus, forme grecque de l'hébreu Josué, signifie Yahvé est salut. Emmanuel, comme nous l'avons vu, signifie littéralement « avec nous est Dieu ». Le mot se trouve deux fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau Testament. Quoique il y ait un petit doute sur un texte, peut-être on pourrait dire une fois de plus dans l'Ancien. Si on dit que le Messie s'appelle Yahvé est salut, Dieu est avec nous, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, cela veut dire clairement Dieu, le Messie, est Dieu. Dieu lui-même. Tous ces textes mis ensemble amènent à cette même conclusion que Jésus-Christ, le Messie que nous attendons, est Dieu. Deuxièmement, Dieu avec nous veut dire aussi Dieu qui vient parmi nous. Cette vérité est à couper le souffle. Les textes que nous avons déjà lus dans Ésaïe montraient non seulement que le Messie est Dieu lui-même, mais aussi qu'il viendrait sur terre. Mais n'est-ce pas faux que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, vienne jusqu'à nous? Écoutez ce que le prophète Jérémie avait dit sur la grandeur de Dieu dans la Bible, en Jérémie, chapitre 23, verset 24. Je cite, « Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre ?» demande l'Éternel. Ici, Dieu remplit le ciel et la terre. Il est, en fait, on pourrait dire, omniprésent. Personne ne peut se cacher de Dieu. Il est partout à la fois. Comment il fait? Pas Internet, hein. Il y a mieux que ça. Et ça nous dépasse. Dieu omniprésent. Écoutez aussi ce que Salomon, le troisième roi d'Israël, avait dit sur la grandeur de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, je cite, « Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire? Le ciel, dans toute son immensité, ne peut contenir Dieu. Dieu nous dépasse. L'immensité de la grandeur de Dieu et son omniprésence nous dépasse tellement. Et pourtant, Dieu vient sur terre en chair et en os. Difficile à concevoir cela. Dieu infini et illimité à accepter les limites de l'humanité afin de vivre parmi nous, mourir pour Jésus-Christ pour délivrer son peuple de ses péchés. Comprenons son peuple, est beaucoup plus large, qui est en fait délivrer l'humanité de ses fautes. Tous ceux en tout cas qui placent leur foi en Jésus-Christ. Parlons un peu du péché.
Qu'est-ce que le péché?
Le péché, souvent on le définit en disant c'est rater sa cible. Ne pas faire, en tout cas la cible de Dieu, celle qui attend sa volonté, le fait de faire ce qui lui plaît. Le péché est comme un mur dressé qui nous sépare de Dieu. C'est tourner notre dos en fait à Dieu et ne plus vivre pour lui, mais vivre pour nous-mêmes. À cause du péché en nous, il est impossible de vivre comme Dieu veut, de vivre dans la sainteté, de vivre dans un amour total pour Dieu et pour les autres. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, tout était bon et parfait. Notre cœur, nos pensées, notre comportement, tout était parfait, saint, pur. Le péché, le mal, la souffrance, la mort n'existaient pas chez l'homme et la femme. Nous avions la capacité de vivre dans un amour total pour Dieu et pour les autres. La vie de Dieu circulait en nous parfaitement. L'intimité avec lui était parfaite. Mais le choix d'Adam et Ève, nos premiers parents, de faire une chose que Dieu leur avait défendue, a tout détruit. Le péché est ainsi entré dans ce monde. Et pour rétablir tout cela, Dieu est venu lui-même par Jésus-Christ pour vivre avec nous. D'un plus, pour mourir pour nous, il s'est donné lui-même pour nous. Écoutez l'un des textes les plus connus de la Bible, Jean 3,16. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappe à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, Dieu qui vient en chair et en os pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Seuls ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seront délivrés du péché afin de recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu en eux pour l'éternité et une relation rétablie avec lui pour toujours. Alors, à entendre tout cela, il est important que vous vous posiez les bonnes questions. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, je vous invite à venir à lui demander pardon pour vos fautes, vos péchés, et à croire que grâce à la venue de Jésus-Christ et à son œuvre, vous pouvez recevoir son pardon, la vie éternelle et une relation rétablie avec Dieu pour toujours. N'attendez pas pour prendre cette décision de vous tourner vers Dieu. C'est le choix le plus important de votre vie. Et dans cette période de Noël, je peux vous dire que c'est le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir. Troisièmement, avec nous. On peut vouloir dire aussi Dieu vient pour vivre en nous. Et ce sera notre dernier point. Voilà l'un des rêves les plus grands de Dieu. Vivre en nous. Il est venu sur terre pour que cela soit possible. Dieu veut que sa vie circule en toi, en moi. Il désire une intimité profonde avec nous. Sa présence en nous, on parle du Saint-Esprit. Je pense qu'à force, peut-être certains ne comprennent pas du tout, mais on a parlé de Dieu. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu parle de la Trinité. C'est un mot qu'on utilise, mais qui n'est pas dans la Bible. On pourrait parler plus de triunité, hein, de Dieu qui, en lui, il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes distinctes et en même temps qui sont unies. On parle ici de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit et se manifeste ainsi pour nous. Et donc quand nous parlons de la présence de Dieu en nous, nous parlons ici du Saint-Esprit. Alors je ne vais pas détailler pour la Trinité, puisque ça serait long de détailler ce sujet, mais je j'ajoute quand même cela, que quand nous sommes face à Dieu, c'est vraiment un aspect de Dieu qui nous dépasse. La Bible parle de Dieu qui est un seul Dieu. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, la Bible dit tellement de choses là-dessus. Il nous réconforte. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous enseigne. Il nous guide dans nos choix. Il nous fait progresser en sainteté et en amour. Il glorifie Jésus-Christ. Il transmet la puissance pour témoigner. Il nous aide à comprendre la Bible, la parole de Dieu et bien d'autres choses encore. Dieu veut être en nous pour que sa vie circule en nous et porte beaucoup de fruits. En Galates chapitre 5, verset 22 et 23, on voit ceci. Cette vie de Dieu qui circule en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous devons avoir ce même rêve de Dieu, qu'il soit non seulement en nous, mais aussi que sa vie circule en nous et que nous vivions une relation profonde avec lui. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et avant de finir ce message, j'aimerais parler juste de la relation avec Dieu. Si Dieu est en nous par son esprit, nous devrions jouir sans cesse de cette relation, n'est-ce pas? Question. Est-ce que Dieu est en nous par son esprit? Est-ce que nous chérissons sa présence? Jouissons-nous de sa présence au quotidien? S'il est en nous, parlons-nous avec lui tout au long de nos journées? Avons-nous un cœur à cœur régulier avec Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais quand j'aime quelqu'un, la relation avec cette personne, le temps passe, et on ne voit plus le temps passer. Est-ce que ça nous arrive avec Dieu? Dieu est présent dans la vie de tous ceux qui croient en lui par son esprit. Mais ce n'est pas tout de savoir que Dieu est en nous. Cela doit nous remplir de joie, nous bouleverser. Et je crois fermement que Dieu veut qu'on vive chaque jour en étant entièrement conscient de sa présence. Nous devrions vivre comme si Jésus en personne était sans cesse à côté de nous. Imaginez un peu vos journées. Hein? Vous allez peut-être dans le RER ou dans le métro ou dans la voiture ou vous partez au travail et vous dites, mais Jésus est là à côté. Difficile de ne pas parler avec lui. Hein? Pourtant, notre tendance est plutôt d'être silencieux, n'est-ce pas? Réfléchissez à cela quand vous êtes au travail. Vivez une situation difficile. Comment vous vivriez cette situation difficile? Alors Jésus, en personne à côté de vous. Vraiment, ce serait très différent, n'est-ce pas? Mais c'est bien de parler de cela et de se dire, mais de vivre cette relation quotidienne avec Dieu. Mais la grosse question, c'est comment on fait? Puisque ce n'est pas si simple que cela. J'avais lu plusieurs livres sur le sujet et un des livres était assez particulier. La personne, je ne vous dis pas de faire ça, hein, mais la personne mettait une chaise à côté d'elle et invitait Dieu à s'asseoir ici. Mais c'était une aide pour cette personne pour arriver à être conscient de la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes aussi qui avaient l'habitude de mettre une sonnerie. Les demi-heures, toutes les heures, pour se rappeler cela. Ah oui, Dieu est avec moi. Mais ça nous montre quelque chose. On est tellement oublieux. On oublie si souvent, en fait, que Dieu est là avec nous. Et je me rappellerai toujours de cette journée que Dieu m'avait donné de vivre, si ça fait plusieurs années, où il m'avait donné cette grâce de pouvoir vivre une vie, enfin, une journée, étant totalement conscient de sa présence. C'était extraordinaire. Extraordinaire. C'était une vie, une journée où j'étais tout le temps dans la paix, dans la joie. assis à côté, quoi. C'était vraiment quelque chose de fort que j'avais vécu dans cette journée. Et à la fin de la journée, c'est comme si Dieu me montrait maintenant, Manu, c'est à toi de faire l'effort, de vivre cela. Comme si Dieu me disait, je t'ai donné de goûter à cela pendant une journée, maintenant c'est à toi de faire l'effort, de vivre cela. On est si oublieux de Dieu avec nous, de Dieu en nous. Alors, plusieurs manières de le faire. À vous de trouver la chose qui pourrait vous aider à prendre conscience que Dieu est en vous et avec vous. Bien sûr, ne tombons pas dans des objets, etc. Je ne suis pas. Il ne faut pas aller jusque-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'être conscient de la présence de Dieu en nous. Pour y arriver, je crois qu'il y a plusieurs choses que nous devons avoir à l'esprit de mettre en place. C'est, une des choses, c'est désirer. Déjà, désirer vivre une relation profonde avec Dieu. Si on n'a pas ce désir, on ne va pas rechercher une relation profonde avec Dieu. Et je pense que vous connaissez ce texte. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ce texte est en train de parler d'intimité. À la fois une connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, mais aussi une connaissance dans l'intimité. La vie éternelle, c'est pour résumer, la vie éternelle, c'est une relation avec Dieu, une intimité avec Jésus-Christ. Désirer vivre une relation profonde avec Dieu. L'autre chose, c'est demander à Dieu son aide. On a besoin de l'aide de Dieu pour arriver à vivre cela et être conscient jour après jour de sa présence au quotidien. Mais aussi nous maintenir dans la sainteté. Si on se met à vivre tout le temps dans le péché, là, il y a un problème. Quelqu'un disait à une personne qui luttait avec le péché, ah oui, j'y arrive pas, je tombe toujours dans le péché, etc. Et il disait, mais si tu tombes autant dans le péché, ok, c'est bien, mais combien de temps tu passes avec Dieu? Parce que plus tu comprends ton besoin de Dieu, et plus normalement, tu devrais être dans ses bras et passer du temps avec Dieu. Autre chose, c'est ce savoir aimer de Dieu. Satan fait tout pour enlever cela. Et dans nos combats quotidiens, on aura la culpabilité qui va nous saisir parce qu'on va dire, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez lu ma Bible, etc. Alors que la vie chrétienne, la relation avec Dieu, ce n'est pas cela. Ce n'est pas à chaque fois il faut cocher les cases, hein, oui. Et puis c'est bon, maintenant je peux me présenter pour Dieu. Donc maintenant, je vais pouvoir te parler. Je peux m'adresser à Dieu que par Jésus-Christ. Et si je pense que je peux venir devant Dieu parce que j'ai fait des choses, je suis indigne de sa présence, beaucoup plus indigne de sa présence. Parce que je dois reconnaître, en fait, que je ne serai jamais à la hauteur. Même quand je pense avoir bien fait, avoir bien agi, mes œuvres, mes actions ne me permettent pas d'atteindre la sainteté de Dieu. Donc, ce savoir aimer de Dieu, nous tombons, quand nous chutons, Dieu attend qu'une chose de nous, que nous revenions à lui. Peut-être que vous, quand vous tombez dans le péché, vous vous dites, Dieu, il est fâché, là. Dieu, en fait, il est plutôt dans un amour intense. Il attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande pardon. Et Dieu veut continuer à vivre l'intimité avec nous. Autre chose, prendre la décision de ne jamais l'oublier. Une décision à prendre. Si on ne se décide pas à cela, ça ne sera pas automatique. Nous convaincre sans cesse que Dieu est là. Là aussi, c'est important, puisque on est si oublieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prendre la ferme résolution de demeurer en lui, s'habituer de se tenir en sa présence tout au long de la journée, penser souvent à lui. Comme quand on pense à quelqu'un qu'on aime, cette pensée nous vient tout au long du jour. Empêcher notre esprit de s'éloigner de lui. Parler avec lui autant de fois que possible. Revenir le plus rapidement possible dans sa présence quand nous tombons. Et tout faire, travail, tâche quotidienne, par amour pour Dieu. Je vous laisse avec ces quelques pensées, peut-être une chose ou l'autre. Arriver à attraper quelque chose, ça me parle plus. Que le Seigneur vraiment nous aide conscient davantage de sa présence. Je vais maintenant conclure. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, montre que Jésus-Christ est Dieu. Dieu vient parmi nous et Dieu vient pour vivre en nous. Le rêve de Dieu pour nous, être parmi nous, être en nous, que sa vie circule pleinement en nous et que nous vivions une relation intime et pleine d'amour avec lui. Si nous avons Dieu en nous par son esprit, apprenons à jouir de sa présence dans notre quotidien. Faisons tout notre possible pour que cette habitude soit formée. Désirons que cette habitude fasse vraiment partie de notre vie pour que nous puissions reposer en Dieu, l'aimer plus et l'adorer. Nous avons tout à gagner, à apprendre à vivre dans la présence de Dieu et à jouir pleinement de sa présence dans notre quotidien. Car de cette relation, Dieu inondera notre cœur de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa force, de sa consolation, de satisfaction. Je vais prier. Dieu notre Père, merci infiniment d'avoir eu ce rêve pour nous, ce désir intense de nous sauver du péché, pour que ta vie circule en nous et pour que nous jouissions de ta présence. Merci d'être venu par Jésus-Christ pour que ton rêve se réalise. Dieu notre Père, nous voulons